Bonjour à tous, bienvenue sur Fréquence Mistral 99.3 avec deux invités. Il s'agit de Laurie Honoré, responsable des services du public du musée Gassendi et du centre d'art Kern à Digne. Bonjour Laurie.
Bonjour.
Et puis de Myriam Prévost qui est invitée par le musée pour une résidence à Digne auprès des enfants. Et vous allez nous parler de fiction radiophonique. Myriam Prévost, bonjour.
Bonjour.
Alors on commence avec vous Laurie pour présenter dans quel cadre vous avez invité en résidence Myriam Prévost.
Oui, Myriam vient de passer une semaine à l'école Joseph Reynac avec la classe de CM de Clémentine Perdreault. C'était dans le cadre d'un workshop, un atelier de pratique artistique pour lequel le musée, soutenu par la DRAC PACA, la Direction régionale des affaires culturelles, pour mener ses actions, invite un artiste. Et ça donne lieu toujours à des expériences différentes selon ce que le savoir-faire de l'artiste. Donc là, Myriam, ta spécialité, c'est la réalisation sonore, l'écriture radiophonique. En tout cas, c'est là où tu avais accès à ton intervention à l'école. Et ça donne pour l'instant des ébauches de petites créations sonores réalisées par les enfants.
Oui, c'est des fictions du coup, que la classe de CM2 là, a élaborées. Donc, il y avait ces œuvres d'art installées au sein de l'école. Ils se sont inspirés des œuvres d'art contemporains pour écrire des petites histoires, à quoi ça leur faisait penser, etc. Donc, il y avait par exemple des souches en tuyaux d'arrosage. Enfin, c'était une installation de souches en tuyaux d'arrosage, comme des petits arbres coupés, quoi. Et donc, du coup, ils sont partis sur une forêt de souches avec des petits nains, des licornes, etc.
Oui, alors sur l'installation de ces œuvres, en fait, ça s'inscrit aussi dans un parcours plus global d'œuvres prêtées par le Fonds régional d'art contemporain dans les écoles, à la demande des enseignants et de la conseillère pédagogique Clotilde Vol. Et ces œuvres, elles sont accueillies depuis peu dans les écoles. Donc les enfants ont découvert donc cette sculpture dont tu parles. Il y a aussi deux tableaux, dessins. Il y a d'autres installations au lycée Alexandra Davinel, au lycée Baudrochas et au collège Borély. Donc ça faisait tout un parcours d'art contemporain sur lequel tu as pris appui pour ton projet.
Oui, voilà. Donc du coup, l'idée, c'était qu'ils s'inspirent un peu de ces différentes œuvres et puis qu'ils écrivent. Donc ils ont écrit par petits groupes des petits textes, des petits récits en amont, puis moi je suis arrivée là-dessus, on a retravaillé un peu les récits pour qu'ils soient adaptables en fiction radiophonique, donc voilà, est-ce qu'il y a des dialogues, est-ce qu'il n'y a pas de dialogues, quels sons on peut imaginer pour quel moment, qui fait quoi, qui raconte, qui fait la prise de son, qui fait les voix, qui fait les bruitages. Donc on a fait tout ça avec chacun des petits groupes et ça a donné six enregistrements de six fictions différentes. Voilà, ça s'est terminé hier les enregistrements. Donc pour l'instant j'ai réussi à finaliser une petite fiction qu'on écoutera et puis le reste c'est encore en chantier. Et après moi mon boulot c'est de produire, de monter tout ça.
On va rappeler que vous travaillez donc pour une radio régulièrement sur Lyon, c'est ça?
Oui, je suis engagée dans la radio Canu à Lyon, qui est une radio associative qui n'est pas professionnelle en fait, hein, c'est vraiment amateur. Moi c'est là que j'ai tout appris sur le tas, j'ai pas vraiment fait de formation. Enfin, j'ai fait une formation dans le théâtre, ce qui m'a beaucoup aidé, hein, pour la radio. Mais j'ai toute la prise de son, montage, expérimentation de toutes sortes. C'est vraiment dans le cadre d'une radio associative comme Radio Canu que j'ai pu m'essayer et apprendre.
Et alors le contact avec les enfants, j'imagine qu'ils ont adoré travailler sur ce thème-là, enfin, assez ouvert finalement.
Oui, ce que j'aime bien avec les enfants, c'est qu'il y a tout le côté s'entendre dans le casque, jouer avec les micros qu'ils aiment beaucoup. Ça leur arrive très très peu, quoi, d'entendre leur voix amplifiée en fait. Donc ils jouent beaucoup beaucoup avec ça. Après, ils jouent dès qu'ils découvrent un peu le pouvoir de cette amplification en direct, là, quand ils ont les casques sur la tête. Ils vont aller expérimenter sur les bruits. Bon, voilà, ça les fait bien rigoler. Et après, ils découvrent souvent, surtout les filles, ils découvrent souvent que leur voix ne leur plaît pas quand ils les entendent comme ça pour la première fois. J'aime pas ma voix, etc. Mais il y a plein de choses comme ça qui les décalent un peu par rapport à comment ils s'entendent habituellement. Moi, j'aime bien passer du temps à faire ça avec eux. Je n'ai pas eu énormément de temps, mais on a toujours pris un peu ce temps-là pour essayer. Et après, une fois qu'on donne un peu des consignes, etc., qu'ils peuvent voir toutes les possibilités qu'on peut faire, oui, c'est parti, quoi. Les bruitages, les cris d'animaux. ouais. Et puis après, il y a les jeux avec la stéréo ou la mono. Donc, s'amuser à faire un peu de beatbox, voilà, j'en ai eu quelques-uns qui maîtrisaient super bien le beatbox dans le micro. Et puis après, il y a tout le côté avec la stéréo, quand on s'amuse à entendre des choses qui bougent aussi, qui prennent de l'espace quoi, dans le casque. Donc du coup, de gauche à droite, des sons qui vont de gauche à droite, de droite à gauche, qui s'éloignent, etc. Ça leur plaît bien.
Et alors, inspiré par des œuvres d'art, est-ce que leur imagination a fonctionné tout de suite? Quelles sont les œuvres qui les ont inspirées?
C'est vrai que c'était des œuvres choisies par les enseignants au départ, vraiment parce qu'elle a pensé qu'il y aurait ce pouvoir évocateur. Et c'est des œuvres qui ont plusieurs interprétations possibles, qui parlaient plutôt de la question du paysage et de l'espace partagé. C'est la thématique du parcours, des villes utopiques, des sortes de cartographies abstraites, ou encore des forêts évoquées par des matériaux de recyclage. C'est toute une petite collection qui aborde de façon très différente la question du paysage et de ces lieux de partage.
Et ces enfants donc, ont travaillé par groupe, je suppose, en fonction d'une œuvre?
Oui, alors en fait, ils ont fait en amont, ils l'ont fait avec leur maîtresse. Mmh. C'est elle qui a fait les groupes. Comme elle connaît bien sa classe, je pense qu'elle avait envie de faire aussi les groupes en fonction des élèves, etc. Donc du coup, ils sont partis, il y en a deux qui sont partis sur une sorte de cartographie assez abstraite aussi, qui n'est pas évidente, hein. Moi je trouve que c'est vraiment pas évident d'interpréter. Il y a plein de petites choses, c'est pas lisible globalement comme ça. Donc ils sont partis sur le désert parce qu'il y a une couleur un peu jaune, orangée quoi, dans le fond, ça fait parchemin aussi du coup. Ils sont partis sur des histoires de trésors dans le désert, et puis les souches, donc comme je vous ai dit, plutôt forêt, avec des petits nains qui habitent dans des tuyaux d'arrosage, des choses comme ça. La dernière, c'était aussi, je ne sais pas comment, décrire le tableau.
C'est une œuvre graphique en noir et blanc qui est composée de différents éléments urbains qui ont été comme collés les uns aux autres. Donc ça crée un paysage à la fois familier parce qu'on reconnaît les éléments, mais complètement inventé.
Et donc du coup, au milieu, il y a une fille qui regarde vers la mer. Donc ils sont partis ils sont partis de ce personnage. La femme qui regarde vers la mer, donc ça donne quand même... une femme qui attend son mari, qui est parti en mer. Voilà, les histoires.
On reste toujours dans ce cliché. Les enfants ont déjà la femme qui attend.
Oui, d'ailleurs, la petite fiction que j'ai montée pour ce matin, là, que vous allez diffuser, c'est... on va vraiment bien dans ce cliché. Hein. C'était des filles et elles y sont allées, franchement. Voilà.
Est-ce qu'on l'écoute maintenant ou
Pourquoi pas.
Oui. C'est un extrait d'une fiction.
Non, c'est la fiction en entier qui est peut-être pas complètement finie, mais en tout cas, on comprend bien. On comprend bien. Enfin, vous verrez.
Allez, on l'écoute tout de suite.
Carla et la rancre. Une histoire inventée par Talina, Armel, Jelana et Méline. Un siècle avant la fin du monde, dans une ville du futur, au bord de la mer Coraya. Il y avait une demoiselle nommée Carla de la Vichy. Sa passion était la rancre. C'est un mélange d'art et d'encre qui ne peut se pratiquer qu'en dessinant avec une plume de dabou. Qu'est-ce que c'est une plume de dabou?
Un dabou, c'est un oiseau géant au bec multicolore qui saute hyper haut.
Et aussi, pour faire de la rancre, il faut être soit joyeux, soit triste. Carla vivait avec son mari Bastien qui travaillait dans la marine sous-marine. Un jour, son mari partit en mission en mer Coraya pour protéger deux espèces coralliennes en voie de disparition, le dabou et des coruspans. Qu'est-ce que c'est des coruspans?
Des coruspans, c'est un mélange de singes et de mollusques.
Et ça vit où?
Au fond de l'eau, bien sûr.
Carla était triste. Pour se consoler, elle prit son chien robot, prénommé McDo. Après avoir joué avec son chien, elle était encore triste. Alors, elle fit de la rancre.
elle se dessina main dans la main avec son mari. 3 mois plus tard, elle reçut une lettre lui annonçant que son mari était décédé. Elle pleura des semaines et des semaines. Quand elle eut séché ses pleurs, Carla alla rencontrer Manon, la meilleure amie de son mari.
Carla, j'ai une bonne nouvelle pour toi.
Quoi ?
Ton mari n'est pas décédé, il rentre dans 3 jours.
Vraiment ?
Oui.
Super !
T'es contente ?
Oui, comment tu le sais ?
Ben, j'ai reçu une lettre.
Toute joyeuse, elle rentra chez elle et peignit un tableau d'arancre. Et puis elle prépara un lasagne couscous, le plat préféré de son mari. Et elle lui prépara aussi une fête surprise et aussi un bon lit douillet. 3 jours plus tard, son mari finit par rentrer et les deux amoureux se retrouvèrent.
Ma chérie, tu m'as tellement manqué.
Moi aussi, mon amour, ma vie, je donnerai ma vie pour toi.
Et ils rentrèrent ensemble à la maison. Elle lui montra son œuvre d'arancre et ils étaient plus heureux que jamais.
Voilà une belle petite histoire, une belle fiction donc que vous avez réalisée avec ses enfants, Myriam Prévost. On a hâte d'entendre les autres fictions. Donc ça, elles seront écoutables, donc quand ?
Oui, là, c'est aussi une manière de préparer les enfants à l'arrivée de la semaine du son à Digne et de les inviter à venir au musée, participer aux événements qui auront lieu pendant une dizaine de jours. Cette semaine, ça s'élargit parce qu'il y a de plus en plus de partenaires. Donc c'est l'occasion d'évoquer l'environnement sonore, mais aussi différents médiums artistiques qui utilisent le son. Et donc à cette occasion, on diffusera les petites créations sonores de cet atelier, peut-être dans des radios,
oui.
Ou alors dans des petites bornes placées dans différents lieux du centre-ville.
Avec plaisir, ici, c'est sûr que nous, on est tout à fait ravis et ouverts pour des propositions comme celle-ci.
Oui, parce que c'est vrai qu'on a rarement l'occasion, en fait, d'entendre des petites fictions radiophoniques d'enfants. Myriam a fait des recherches.
Non, il n'y a pas beaucoup. Je pense que ça se fait quand même. Ça se fait pas mal. On peut en trouver... Sur les audioblogs d'Arte Radio, si on fait des recherches, mais des fictions qui sont un peu plus, soit qui sont éditées vraiment, qui sont un peu plus officielles, un peu plus travaillées. Pour les enfants, oui, il y en a, mais pour et par les enfants, j'ai eu du mal à trouver. Ouais. En tout cas, travailler avec les enfants, ça reste un plaisir pour moi. Et c'est sûr que j'y reviendrai et que de plus en plus, je tends l'oreille à qu'est-ce qui se fait au niveau radio pour les enfants. En fait, après, la réalisation sonore, ça reste pas que pour la radio. Moi, j'ai travaillé pour des expos aussi, puisque ça se fait de plus en plus aussi, de multiplier les médias, en fait, pour parler au public, quoi, pour voilà.
Ça crée des ambiances immersives aussi, quand on rentre dans une exposition. J'ai pu vivre cette expérience à Lyon, par exemple, où on nous passe des casques et on est vraiment plongé dans un univers sonore en lien avec ce qu'on voit. Ça fait une expérience oui. Globale, quoi.
Oui. Donc ça, c'est une demande qui peut être faite par des artistes.
Oui, soit par des artistes en collaboration. Là, moi, ce que j'ai fait dernièrement, c'était plus pour des expositions qui retraçaient des histoires, des archives, ressortir des archives et essayer de les confronter au présent. J'ai travaillé sur une exposition autour du végétal dans la ville. Donc c'était... dans la ville de Villeurbanne, donc juste à côté de Lyon, quoi, Lyon-Villeurbanne. Et puis là, c'était aller à la rencontre des parcs, qu'est-ce qui se fait dans les parcs, comment les parcs sont gérés, les parcs, les squares, mais aussi les jardins partagés, les gens qui cultivent chez eux aussi, sur leur petit balcon, quel rapport ils ont au végétal, etc. Donc il y avait plein, et des ambiances, et ça pouvait être des ambiances de square avec des enfants, etc. Ou alors ça pouvait être des choses plus élaborées, des reportages ou des documentaires. Donc voilà, oui, le son peut se décliner. Et puis en plus, il revient en force, j'ai l'impression, ces dernières années. Voilà, il y a une... Bon, j'ai entendu dire ça, qu'il y avait aussi une telle saturation d'images, qu'on était tellement saturé d'images qu'il y a... Pardon. Il y a... Le son est revalorisé un peu en ce moment, sous plein de formes, et ça peut être sous des formes artistiques, mais ça peut être sous des formes aussi très commerciales, très marketing. On parle beaucoup de design sonore. Voilà, c'est aussi le pouvoir essayer d'atteindre aussi les gens par le son. Ouais, y a des gens qui se repenchent bien là-dessus en ce moment, sous plein de formes différentes, quoi.
Oui, c'est aussi beaucoup de métiers différents. Et dans ces ateliers de pratique artistique, il y a bien sûr l'importance de donner la parole aux enfants, qu'ils puissent s'exprimer, mais qu'ils puissent aussi expérimenter peut-être des outils dont ils n'ont pas l'habitude, et puis rencontrer des professionnels qui ont voilà, des métiers qu'on ne croise pas tous les jours, comme réalisatrice sonore, et leur parler de que ça peut s'appliquer à différents champs, la radio, des expositions. Là, dans les documentaires aussi que tu as mené à faire pour France Culture, par exemple, parfois, c'est un travail vraiment d'écriture plus personnel aussi, où tu as des points de vue.
Oui, alors après, quand j'ai travaillé pour France Culture ou pour la radio, Télévision Suisse ou pour Arte Radio, là, c'est mes projets à moi en général. C'est beaucoup moins des commandes. C'est moi qui arrive avec un projet écrit et qui demande, c'est accepté ou c'est refusé. C'est un peu comme ça que ça fonctionne, ouais. Après, en fonction des radios, on nous donne du matériel ou on nous prête quelqu'un qui sait prendre le son, entre guillemets, enfin, un technicien. Voilà.
Donc en fait, la radio va te donner les moyens de produire le documentaire que tu proposes.
Voilà.
Et... un des derniers sujets, par exemple
Que j'ai réalisé.
Oui, pour qu'on peut entendre.
Que j'ai réalisé, je vais parler de la radio-télévision suisse. Donc c'était sur Espace 2, dans le Labo. C'était une émission qui s'appelait Le Labo. J'ai réalisé un documentaire sur les souterrains de Lyon. Voilà, les catacombes, comme on dit. Autour d'un mythe qu'il y a, légende et mythe des souterrains de Lyon. Si on creuse un peu, c'est le cas de le dire, il y a plein d'histoires qui ressortent, dont des histoires plus extravagantes les unes que les autres. Voilà, c'est un des derniers documentaires que j'ai fait.
Et les projets, donc là, il reste encore beaucoup de travail de son, de montage, avec ce que vous avez fait comme travail avec les enfants.
Oui.
Ça va vous occuper...
Ça va m'occuper quelques jours, ouais.
Quelques jours. Et après, ouais. Vos projets ?
Alors, en ce moment, j'ai deux projets. Il y en a un où là, le son est déjà tout pris. J'ai suivi, en fait, deux amis qui ont fait... Alors, deux amis, donc c'est un couple d'amis femmes, donc qui sont homosexuelles, qui ont... Il y en a une des deux attendez, je vais reprendre depuis le début. Donc, elles voulaient un enfant. Elles ont trouvé un géniteur qu'elles ne connaissaient pas, mais qui était dans, voilà, amis d'amis, etc. Donc, j'ai suivi, en fait, tout le processus, même depuis le projet, donc, où l'enfant n'existait pas encore, jusqu'à maintenant, où l'enfant a bientôt 3 ans. Et du coup, j'ai suivi énormément tous les questionnements que ça a généré chez elle. Donc au milieu de tout ça, avec les manifestations contre le mariage pour tous, à ce moment-là surtout, au moment de la conception et du projet, quoi. Maintenant, comment ça se passe ? Parce que maintenant qu'elles ont pu se marier, qu'elles peuvent adopter, etc. Et que l'une des deux peut adopter, évidemment, parce qu'il y en a une qui est la mère biologique et l'autre qui n'est pas la mère reconnue. Donc j'ai plus suivi celle qui n'est pas la mère reconnue. Parce que ça me semblait plus intéressant de voir de son point de vue comment elle vivait la parentalité, en fait, la maternité, parce que du coup, elle n'avait pas cette reconnaissance-là. Et comment elle se légitime à être mère en fonction de sa place dans la société, de son histoire. Enfin, ça mêle énormément de choses qui sont très riches, en fait, pour parler de la parentalité en général. Et voilà, donc, et puis pour parler aussi des lesbiennes, comment elles font, les femmes qui veulent avoir des enfants et puis qui n'ont pas cette matière première sous la main. Voilà, et j'ai un autre projet en ce moment qui est de travailler autour des parcs nationaux en France, dans les Alpes. Donc je me suis penchée sur le parc national de la Vanoise, et bon, je suis en train d'écrire Mais c'est, pour l'instant, c'est vraiment à l'état d'ébauche. Voilà.
Merci. Laurie, la culture et les enfants, vous faites beaucoup de travail de partenariat avec des artistes pour les initier.
Oui, c'est plusieurs fois par an qu'on a l'occasion d'inviter un artiste à travailler dans une école. Ça va vraiment de l'école primaire au lycée. Et parce qu'on s'adresse aussi aux plus jeunes, mais ça, c'est une autre histoire.
C'est-à-dire les plus jeunes
À partir de 2 ans, en fait.
Oh, c'est tôt, tôt, oui.
ça, ce sont la petite enfance, les structures du petit jardin, de la halte garderie, et puis du relais des assistantes maternelles, qui, depuis 5 ans, viennent régulièrement au musée. Et c'était pour elle, pour cette éducatrice, comme pour nous, les médiatrices au musée, tout à fait nouveau, même si ça se fait dans certains musées depuis 10 ans, comme au musée Fabre, on a pu aller voir les expériences qui sont menées là-bas, avec des formations pour les professionnels à l'accueil du tout-petit au musée. Et pour nous, depuis 5 ans, on a expérimenté différentes façons de faire des ateliers pour découvrir les œuvres autrement, par le toucher, par les sens, la musique. Et comme c'est admis depuis bien longtemps que l'éveil musical, par exemple, sensibilise les petits dès 2 ans, en fait, avant 4 ans, les enfants sont très sensibles. Il y a beaucoup de choses qui vont influencer dans leur expérience à ce moment-là de vie et qui vont influencer leur comportement des années à venir. Donc, on s'est rendu compte de la réceptivité des enfants à cet âge-là, aussi au sens de la vue, l'observation. Le plaisir de la curiosité, de la découverte, et de là aussi, donc ces temps de rencontre dans le musée où ils s'habituent au lieu, ils ont un plaisir à échanger avec l'adulte. Il y a une relation vraiment particulière qui se crée à ce moment-là. Où parfois certains enfants qui sont dans le cadre où il y a beaucoup de monde. Dans les collectivités, par exemple, vont être un peu moins expressifs. Là, dans un petit groupe, face à une œuvre d'art, ça leur donne l'occasion d'exprimer plein de choses avec l'adulte, aussi d'échanger, et puis de découvrir de nouveaux vocabulaires. Donc, c'est une expérience très riche, aussi bien pour les petits que pour nous, les professionnels qui les avons accompagnés. Et ça va se poursuivre parce que... En fait, il y a un constat fait par le ministère de la Culture suite à une mission qui s'appelle les musées du 21e siècle, où il y a eu une grande évaluation auprès des citoyens sur Internet, des élus et des musées territoriaux et nationaux dans toute la France pour émettre des préconisations sur le musée de demain. Et vraiment, ce qui ressort, c'est qu'il faut que les musées soient accessibles à tous, y compris vraiment aux nouvelles générations, et plus conviviales, que ce soit vraiment des lieux de vie. Donc on s'attelle au musée Gassendi à ça, avec le projet, en partenariat avec les structures de la petite enfance de la communauté d'agglomération, de faire des outils, si on arrive à avoir du soutien, de produire des objets et des pédagogies, une sorte de mallette, pour permettre aussi aux parents de venir jouer dans le musée avec leurs enfants dans des temps libres de visite. Par exemple, les premiers dimanches du mois, le musée est toujours gratuit et ça peut être des occasions de venir passer quelques heures, un après-midi, devant un tableau, en jouant, en manipulant des objets adaptés et en découvrant ensemble ces œuvres d'art.
Et pour revenir donc à la fréquentation du musée Gassendi, donc, est-ce qu'il s'ouvre, vous remarquez davantage de Dinois, des gens du territoire en visite dans le musée régulièrement?
Oui, il y a toujours... ça dépend des périodes, en fait. C'est vrai que là, dans cette période d'automne jusqu'au printemps, là, en hiver, c'est beaucoup les gens d'ici qui viennent. Alors, beaucoup d'écoles, c'est certain. Là, on a fait beaucoup de formations pour les enseignants aussi. Donc, voilà, les scolaires, on trouve beaucoup le chemin au musée. Il y a beaucoup d'exploitation pédagogique à faire à partir des objets. Et puis aussi, les week-ends, les habitants de Digne, ceux qui sont là depuis longtemps, qui redécouvrent le musée avec les expositions temporaires. Là, en ce moment, on a l'exposition de Denis Fine, qui est un artiste qui vit à Moustier. Il réalise des paysages très abstraits, mais en même temps qui évoquent beaucoup la Provence, dont il est en fait, quand il réalise ses dessins à l'encre de Chine, il est complètement immergé dans l'ambiance sonore de la nature qui l'entoure chez lui. Et ça, c'est une très belle exposition qui est visible jusqu'au 17 janvier, 11 peut-être. Et en même temps, on a aussi, pour jouer le jeu du parcours paysage-espace partagé qu'on évoquait tout à l'heure avec ses œuvres d'art du FRAC dans les établissements scolaires, on a aussi fait sortie de nos réserves une œuvre, une installation vidéo de duo d'artistes qui s'appelle Masbedo, qui évoque cette relation complexe que l'homme a avec la nature. Donc ça s'appelle « Prendre la tempête à la mer ». Et c'est aussi à découvrir jusqu'en janvier.
Et pour venir au centre d'art Le Cairn, est-ce que le fait qu'il soit excentré de Digne, c'est vrai qu'il était un temps au boulevard Victor Hugo, est-ce que les gens vont jusque là-bas ?
Alors, la fréquentation du centre d'art est importante, hein, mais c'est vrai que c'est surtout sur la période estivale, puisqu'il réouvre en avril. Là, il vient juste de fermer ses portes fin novembre. Ce qui n'empêche pas que, après, par rapport aux habitants, il y a un travail qui est mené toute l'année par l'équipe du Cairn, qui fait beaucoup d'actions hors les murs, en invitant des artistes à travailler avec les habitants. Ça a été le cas, par exemple, du couple d'artistes Gesson and Miles. Sont un duo irlandais, mais qui vivent à Marseille. Et ils ont passé un an en résidence à Digne depuis octobre 2016 jusqu'à présent. Leur résidence s'est terminée au moment des Journées du patrimoine, mais ça a été l'occasion de faire beaucoup de rencontres avec les gens, les habitants, les anciens et puis les nouveaux aussi. Il y a eu pas mal de travail avec des réfugiés ou avec d'autres publics de passage. Et en partenariat avec les associations, donc l'association à fleurs de pierre, il y a eu aussi le contrat de ville. Donc c'était vraiment, ces artistes, ils ont travaillé avec les Dignois pour évoquer la question des plantes. Tu parlais tout à l'heure, Myriam, de la place du végétal dans la ville. C'est un peu ce qui les a intéressés. Ils sont partis de l'idée qu'il y avait beaucoup de vergers abandonnés qui donnent des fruits, ces arbres qu'on trouve parfois sur des parkings ou dans des endroits insolites et qui sont toujours... qui sont des traces de la mémoire de vie humaine et qui donnent des fruits. Et donc, il y a eu un travail de récolte. Et ensuite, ces fruits ont été transformés différentes façons, en confiture, en choses comestibles. Et aussi, ils ont inspiré ces végétaux, ces arbres, des histoires. Les gens ont raconté quelle était leur relation affective à ces plantes. Ça a donné comme ça une exposition au musée, vraiment réalisée par les gens. Et aussi une œuvre d'art, une installation dans le parc du musée Promenade, qu'on peut toujours voir. C'est une œuvre permanente où il y a une collection de toutes les plantes préférées des Dignois qui ont participé.
Merci. Je pense qu'on a fait le tour de ce que vous vouliez communiquer.
Merci, Odile.
Oui, il manque informations.
Non, je pense qu'on a bien parlé.
Voilà. Est-ce qu'il y a un site où on peut retrouver ce que vous faites, Myriam Prévost ?
Non.
Non, d'accord. Enfin,
j'ai un petit audioblog, mais il n'est pas très mis à jour pour l'instant. Non, je suis trop éparpillée pour assembler.
Des choses un peu sur Arte Radio et puis sur Radio Canu.
Oui, on peut écouter. On peut dans le moteur de recherche de Arte Radio, on peut taper mon nom et me retrouver.
D'accord. Très bonne journée à toutes les deux et
Merci.
À bientôt donc au musée.
Merci, bonne journée.
Au revoir.
Bonne journée.
Au revoir.